Bonsoir, Roland.
Bonsoir. Alors, la Boutargue est une poésie, une sainte poésie. C'est une promesse de partage, même quand on consomme seul. C'est une promesse de fête, même si c'est un jour normal. C'est une promesse de rêve, même si ce n'est que du poisson. Ceci est un extrait de la préface de Raïm Corsien, grand rabbin de France, du livre de Gérard Mémy. Alors, Gérard, bonsoir. Et je voudrais que tu nous dises, que tu nous parles de cette préface parce qu'elle est vraiment très, très belle.
En effet, cette préface est riche, profonde, sympathique, avec l'humour de Raïm Corsia, que j'ai connu à la synagogue de la rue Vauquelin, qui faisait également office du séminaire israélite de France, où tous les grands rabbins ont été formés, et même les petits. Et mon père a été président de cette synagogue pendant 20 ans. Donc il a bien connu mon papa, il m'a bien connu. J'étais un peu plus âgé que lui. Et quand je lui ai proposé de faire la préface du livre, il a été emballé et m'a répondu favorablement immédiatement. Et ça a été un plaisir pour lui de faire cette préface. Et aussi bien dans notre communauté qu'en dehors de notre communauté, les gens ont été ravis de la profondeur du texte.
Alors disons-le tout de suite, parce que j'ai le livre devant moi. C'est un très très beau livre qui est sorti de chez Flammarion. Pardon. C'est un très beau livre à plus d'un titre, Gérard. Il est très beau déjà par ces belles photos que tu y as insérées, vraiment très 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 belles, mais aussi par l'enseignement très riche qu'il nous apporte sur le sujet, issu, à mon avis, d'une vraie recherche. Je suppose que tu as pas mal travaillé pour faire ça. Et enfin, par la chaleur qu'on ressent lorsque tu parles de tradition. Alors, tu dis que la Boutargue est tunisienne, comme tout le monde le sait. Elle a plus de 4000 ans, dis-tu dans ton livre. Elle naquit sur les bords du Nil. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ?
Alors, d'abord, oui, c'est un très beau livre auquel nous avons eu un succès médiatique très important. Il y a des très belles photos. C'est un beau livre de 240 pages aux éditions Flammarion qui est sorti le 30 octobre. J'ai mis 2 ans et demi de travail. Mmh. Alors, Roland, il faut te dire la vérité, je ne suis pas le seul auteur de ce livre. J'ai été aidé par Laurent Quessette, qui est un passionné d'histoire, qui est né dans la région de Marseille, à côté de Martigues, avec toute sa famille. Il est passionné d'histoire. Actuellement, il est juriste à la mairie de Paris. Et c'est avec lui que le projet a commencé, pour me dire tout simplement, pourquoi tu ne ferais pas une petite étiquette sur tes boutins où tu racontes un petit peu, enfin le minimum. Et ensuite est arrivée Jocelyne Rigaud, celle qui a coécrit le livre avec nous. Et du projet d'étiquette, on en est rendu à ce beau livre de 246 pages et auquel nous avons eu des séances de travail intenses. On ne pouvait pas se contenter de faire une petite étiquette parce qu'à chaque fois on disait « oui, mais il faut parler de ça, et de ça, et de ça ». Et donc, voilà, au fur et à mesure, le livre s'est fait, il est paru. Et puis, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu de livres sur ce produit. Il y a un jeu de mots sur la couverture, c'est Boutargue ou Boutargue, pour n'exclure personne, parce que je sais très bien aussi qu'il y a des gens qui appellent le produit Boutargue. Et la deuxième raison est plus psychologique, disons, c'était bien sûr la transmission de mon père, qui a été le premier fabricant de Boutargue en France, l'héritage de mon père. Et ça, c'était très important pour moi également.
Alors, tout à l'heure, je disais que c'est un livre qui montre qu'il y a eu de la recherche. Effectivement, quand on dit dans ce livre que la Boutargue est née il y a plus de 4000 ans en Égypte, on donne des informations. Il y a des bas-reliefs du tombeau de Ti. Hein. Ti, c'était donc un haut fonctionnaire de la 5e dynastie des pharaons. et on montre la préparation de la boutargue. Ce n'est pas une affirmation en l'air.
Alors, il faut être très diplomate, et surtout dans notre communauté, ne froisser personne.
Pourquoi ?
Les Tunisiens pensent que c'est un produit tunisien à 100%.
Oui.
Mais, en fait, comme tu l'as dit, c'est un produit qui est connu depuis la nuit de temps, et les plus vieilles traces de ce produit remontent au temps des pyramides égyptiennes et des pharaons. Mmh. Et d'ailleurs, on peut voir des hiéroglyphes qui sont communiqués dans le livre et qu'on peut retrouver également au musée du Louvre, où on voit des hiéroglyphes égyptiens où il y a, à l'époque, déjà il y avait des fabricants de boutade. Donc les Tunisiens pensent que c'est leur produit, mais ce qui est fou aussi, c'est que les Japonais et les Taïwanais pensent que c'est également leur produit, avec toute la même symbolique histoire et les mêmes histoires que les Tunisiens peuvent raconter sur le produit. Mmh. Voilà.
Alors, il faut dire qu'à cette époque, c'est vrai, la conservation du poisson ne passait que par le salage, le fumage et le séchage, puisqu'il n'y avait pas de frigo, bien entendu. C'était la seule façon de conserver. Alors, je te cite, Gérard. La boutargue est à la fois une tradition qui plonge ses racines dans les eaux profondes de l'histoire et la transmission d'un savoir-faire unique dont les rares légataires perpétuent de nos jours le secret de fabrication. Alors, on va parler de la fabrication, si tu veux bien, parce qu'en fait, le processus de fabrication, il est millénaire. Mais alors après, il y a bien des choses différentes. Alors commençons par le début, si tu veux bien, par le poisson lui-même.
Alors, le poisson lui-même, je vais remonter un peu plus, d'une façon plus lointaine, si tu le permets.
Je t'en prie.
Pourquoi ce produit existe de tradition dans certaines villes de tous les pays qui bordent la Méditerranée. Parce qu'à l'époque, les pêcheurs étaient rémunérés avec les œufs de poisson. Le propriétaire prenait le poisson et payait le pêcheur avec les œufs de poisson. Qu'est-ce qu'il faisait avec les œufs de poisson? Il n'y avait pas de frigidaire, il le salait et il le séchait. Pour tous les œufs de poisson, y compris le mulet à Martigues, par exemple, ou en Corse, ou en Espagne, ou en Grèce, évidemment, en Turquie, tous les pays qui bordent le bassin méditerranéen. Mais le problème, c'est que les fabricants de boutargue aujourd'hui utilisent uniquement trois espèces qui sont spécialement conçues et qui sont la véritable boutargue. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 122 espèces de mulets à travers le monde et aujourd'hui, tous les fabricants utilisent uniquement trois espèces qui sont en provenance du Golfe du Mexique, de Mauritanie au Sénégal et ensuite d'Australie et éventuellement du Brésil. Donc, les gens confondent et pensent que ce produit a été fabriqué et fabriqué toujours dans le bassin méditerranéen, mais tous les fabricants au monde aujourd'hui, sur les 122 espèces de mulets qui existent, on en utilise uniquement trois qu'on trouve la matière première, donc dans les pays que je viens de citer. Le process de fabrication en lui-même est très simple, mais il y a des secrets, il y a un savoir-faire. Il y a une transmission. Tous les fabricants sont des entreprises d'origine familiale avec un savoir-faire qui se transmet. Et c'est à peu près le même principe, bien que les normes vétérinaires sont vraiment différentes entre l'Europe et puis les pays asiatiques. Mais ou sinon, le principe est très simple. C'est des œufs de mulet qui sont nettoyés, salé, séché et ensuite emballé sous cire ou sous vide. Tout le monde ne connaît pas le principe de la cire d'ailleurs, mais en France, les gens connaissent le principe de la cire.
Bon, précisons tout de suite, le mulet ou la muche, comme on dit à Marseille, c'est un poisson cachère. Heureusement pour nous.
Oui, les gens confondent l'espèce de mulet qui traîne aux abords de port et le mulet de pleine mer qu'on utilise. Je ne veux pas dénigrer le travail des uns ou des autres, mais aujourd'hui, on peut voir Boutang made in Marseille, mais il faut savoir que le consommateur ne soit pas dupe et que les œufs de Lunet ne sont pas en provenance de la Méditerranée. D'abord, il n'y en a plus, et puis ce n'est pas l'espèce qui correspond à fabriquer de la Boutang.
Bien, alors, j'ai lu dans ton livre que c'est une opération très délicate qui ne peut pas être faite de manière d'ailleurs industrielle. Pardon, ouvrir le ventre du mulet, sortir les deux poches, c'est quelque chose d'assez délicat.
Oui, alors, pour te dire la vérité, nous achetons uniquement les œufs de mulet congelés.
Oui.
Par contre, on fait très attention, tous les principes de pêche équitable, responsable, de ne pas mettre en danger la
L'espèce.
procréation de l'espèce. On a de la chance parce que le mulet est un poisson qui a. Et un poisson où les œufs sont très abondants, pardon, et donc il n'est pas une espèce en voie de disparition ou menacée. C'est vrai qu'il y a des bouleversements climatiques avec les températures de l'eau qui sont différentes et le mulet ne passe plus toujours aux mêmes endroits. Voilà, c'est ce qui fait aussi parfois la fluctuation des coûts.
Alors tu dis toi-même que justement pour approvisionner ces œufs, tu vas aux quatre coins de la planète pour vérifier la bonne qualité, etc.
Oui, c'est un produit qui coûte cher. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait le produit, donc on fabrique le produit de père en fils. Je ne veux pas prendre de risques au moment de mes achats. Je préfère voir la marchandise avant, et c'est pour ça que je me déplace dans les pays qui nous approvisionnent en matière première, que je me déplace dans ces pays pour voir exactement ce que j'achète.
Alors, tu viens de dire que, et c'est vrai, on le sait tous, que c'est un produit cher. Pourquoi?
Eh bien, c'est pas simple. Et on va faire une petite formule mathématique.
Allons-y.
Pendant la gestation du mulet, où le mulet est plat, on va prendre un exemple sur 100 kilos de mulets qui sont pêchés. Il y a une sélection naturelle, puisqu'on prend que les femelles, c'est des œufs de mulets, donc que les
Donc,
femelles.
femelle.
Et sur les 100 kilos, il reste 50 kilos. Okay? Sur les femelles qui sont pleines, l'œuf de poisson représente à peu près 10% du poids du poisson. Donc sur les 50 kilos, ça donne 5
5
kilos de
kilos.
matière première. Et évidemment, lors du process de fabrication, il y a une perte au séchage naturelle et suivant le process de fabrication. Et donc, on peut considérer qu'en produit fini, il reste quoi? Entre 2,5 kg et 2,7 kg à peu près de moutarde. Donc, pour 100 kilos de poisson pêché, ça donne 2,7 kg de moutarde. C'est pour
Effectivement, on
ça que c'est
comprend.
cher.
Oui, on comprend ça. Alors, d'où vient ce mot-là, boutargue ou poutargue? On l'appelle boutargue ou poutargue.
Alors, les plus vieilles traces qu'on a trouvées sur le produit, la boutang, sont de provenance, comme tu l'as dit tout à l'heure, égyptienne. Et si tu entends l'alphabet égyptien et puis quelqu'un qui parle d'une façon un peu littéraire, et tu le sais peut-être, que la lettre P n'existe pas dans l'alphabet arabe. Si tu entends quelqu'un parler en arabe, il va te dire je bois du Pepsi Cola ou je vais à Paris. Donc, les puristes ont appelé Boutang, comme en Italie, Botang. Et puis, dans le dictionnaire provincial, le mot Boutang avec un P, Boutargo, signifie grappe d'œufs de poisson. Donc le mot a été un petit peu francisé en quelque sorte d'origine provençale dans le sud-est de la France. Donc certains l'appellent poutargue ou boutargue, mais si tu prends la plus vieille édition du dictionnaire Larousse de 1883, depuis le départ, on dit boutargue ou poutargue. Il a fallu faire un choix. Mon papa appelait boutargue comme un bon Tunisien, et donc on a continué avec boutargue. Mais les deux orthographes sont marquées dans le dictionnaire, et c'est exactement le même produit.
Bien, alors si tu veux bien, Gérard, nous allons faire une pause musicale et c'est toi qui l'as choisi. On en parlera après la pause Et puis
Avec
après,
plaisir.
on va parler d'une histoire exceptionnelle, celle de Gérard Mémy. Et ça,
Oula.
Je l'ai trouvé sur ton livre. Alors, on écoute la pause musicale tout de suite.
Avec plaisir, Roland.
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois, entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche? Et descendez de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? Oh, j'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi les photos pour voir. C'est ça, c'est tout ça a vraiment existé? Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux? Ah! Allons! Ne vous moquez pas de moi! Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il me l'était une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Mais vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que ça a vraiment existé? Alors, ne me racontez plus d'histoire. Je me dois le toucher et le voir pour y croire. Comment c'est vrai? Le sable était blanc! C'est vrai! Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des maisons! C'est vrai! Ça a vraiment existé! Ça a vraiment existé! Vraiment!
Vous êtes à l'écoute de l'émission Judaïsme Pluriel et ce soir, nous parlons avec Gérard Mémy de son livre Boutargue, Histoire, Tradition, Recette. Alors Gérard, tu es là?
Oui.
Alors, pourquoi avoir choisi cette pause musicale?
Alors, déjà, Johnny Hallyday, je dois le dire... je n'ai pas raté un seul de ses concerts depuis 1972 ou 73, concert parisien, je parle, et j'étais fan. Et la mort de ce grand artiste m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est quelqu'un que j'écoutais très souvent, et rien que de le mettre dans la voiture à fond, me redonnait un courage et la volonté pendant mes moments de difficulté. Et j'ai choisi cette chanson, une chanson de 1970 qu'a chanté Johnny Hallyday, une chanson écrite par Philippe Labro, grand romancier et journaliste, et grand défenseur de notre communauté d'Israël également, et qui a été écrite par Philippe Labro et sur une musique de Beethoven, la 7e symphonie de Beethoven. Et je trouve que cette chanson n'a pas pris une ride quand on écoute bien les paroles. Il parle déjà en 1970 de problèmes écologie et de survie du monde. Voilà, et on est en plein dans l'actualité.
Bravo, bravo, c'est un très très bon choix.
Oui, j'invite les gens à regarder les paroles de cette chanson sur Internet ou quelque part. Voilà.
Ok.
C'est tout à fait d'actualité.
Alors, j'ai annoncé une histoire exceptionnelle, celle de Gérard Bémy, et nous allons commencer tout de suite. Alors, tu arrives en France, à Paris, avec tes parents le 20 février 1967, et tu as donc 10 ans. Alors, raconte-nous cette arrivée.
Introduction. Roland, je ne voulais pas faire ni un livre sur la société Mémy, ni un livre sur Gérard Mémy. Et quand les éditeurs sont venus à plusieurs reprises me voir dans nos bureaux, ils ont dit « Mais comment tu as commencé, ton père ?» Et j'ai commencé à raconter plein d'anecdotes et plein d'histoires. Et ils m'ont dit « C'est impossible de ne pas raconter quand même ton parcours dans le livre. »
Absolument.
J'ai hésité longuement parce que je ne voulais pas me mettre en avant, je ne voulais pas parler de moi. Et puis, suivant les conseils des uns et des autres, voilà, il y a quelques pages qui me sont consacrées où je raconte une histoire et puis les souvenirs de mon papa et comment la transition s'est faite entre mon papa et moi, et puis quelques anecdotes et puis surtout...
Alors on va parler de ça. Alors tu as 10 ans quand tu arrives avec tes parents et comme tu le dis dans ton livre, ben, vous êtes venu avec une main devant, une main derrière. C'est-à-dire... voilà. Bon... Alors, ton père a essayé de trouver... il était céréalier, et puis il faut le dire, il était le champion de l'équipe La Méduse de Métropole de
Waterpolo. Exactement, de Waterpolo. Il faisait partie de l'équipe nationale de Waterpolo de Tunisie.
Voilà. Et puis donc, vous arrivez à Paris. Alors d'abord, il s'essaie dans la fabrication de la harissa. Et puis, par hasard, je te laisse continuer.
Ben, par hasard, il a été à un salon alimentaire parce qu'il s'intéressait à l'import-export de produits. Et il tombe sur au pavillon américain de ce salon sur des œufs de mulet congelés. Et puis il se dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de moutarde ici, ou très peu, ou j'en vois pas. C'est une bonne idée. Et donc, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Comme c'était déjà, à l'époque, un produit très cher, il avait tapé toute la famille à droite et à gauche pour apporter 200 kilos d'œufs de mulet à l'époque. Ouais. Et puis, l'histoire a commencé comme ça.
Donc, c'était en 60, hein, je crois, à peu près, dans les années 60.
Non, un peu plus tard. Non, plutôt 70.
70.
Oui, pardon. Excuse-moi. L'importation, oui, fin des années 60. Fin
voilà.
des années 60.
Alors...
Mais à l'époque, aller ensuite convaincre des banquiers
oui.
pour acheter des œufs de mulet, voilà, parce que personne
c'était
ne
pas
connaissait
connu.
Ni la boutarde, ni des œufs de mulet à l'époque.
Oui,
voilà.
Oui. Il a eu beaucoup de courage de se lancer.
Oui.
Et alors, il s'installe où
diverses expériences, dont une association avec le regretté monsieur François Douillet, à l'époque, il s'installe tout seul à la rue de l'Arbalète, dans le 5e arrondissement à Paris, une toute petite boutique qui n'était pas adaptée à la fabrication. Et il travaillait uniquement avec ma mère. Et puis par la suite, il parlait à ma sœur et il disait « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ». Elle lui dit « Écoute, ça tombe bien, il y a le fils de la femme de ménage qui est mauricien, qui a 15 ans, il vient à Paris, il a pas de papier, mais bon, il fait rien toute la journée.
Mmh. »
Et
Sourag
il a engagé ce jeune homme.
Comment il s'appelle? Sourag Moungra.
Sourag Moungra.
Ah, oui.
Et donc, il engage, il fait tout pour qu'il ait ses papiers et il obtient ses papiers. Et aujourd'hui, ce monsieur a 52 ans et c'est mon responsable de production. Et il a été formé par mon papa à l'ancienne, dur, beaucoup plus dur que moi. Et je lui fais absolument confiance sur toute la fabrication du produit, car il connaît tous les secrets qui ont été transmis par mon papa.
Bon,
Alors, il a eu la médaille d'honneur du travail.
Oui, il fallait le dire.
Plus
voilà,
de 30
c'est ça.
Ans dans la même entreprise.
30 ans, c'est magnifique. Magnifique.
Ouais.
Il faut croire qu'il s'y trouvait très bien. Alors,
ah oui.
Alors, tu dis, j'ai une formation d'expert comptable, mais je me suis aperçu que ça ne m'emballait pas tellement. Et par ailleurs, je n'avais pas trop envie de travailler avec mon papa.
Oui, parce que à l'époque déjà, je donnais un coup de main à mon père pour effectuer les livraisons. Mon père était quelqu'un de très simple, il n'a jamais été propriétaire, il n'a jamais eu de voiture, et donc quand il fabriquait la moutarde, il fallait bien la livrer. Et donc je venais dans mes horaires de travail, entre midi et 2 heures, entre mes horaires, et je venais lui chercher la marchandise. Mmh. Il était toujours en retard, les conditions n'étaient pas bien respecté, de normes en vigueur, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, mais moi jamais, enfin je ne pensais même pas à ça, mais ça ne me plaisait pas du tout et je ne voulais pas du tout imaginer que je puisse reprendre une affaire de fabrication de boutades.
Voilà. Alors en 1988, tu dis que la rue de l'Arbalète, ça commence à être un peu petit, les affaires marchent pas mal et
exact.
Mon père cherche... Un local plus grand. Mais alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tu vas nous expliquer. Il cherchait un local desservi par la ligne 7 du métro. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, il n'avait jamais eu de voiture, il ne conduisait pas.
Ah,
et donc, on habitait le quartier des Gobelins, d'où le séminaire israélite de France de Vauquelin, de la rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement à Paris. C'est pour ça qu'on a connu tous les futurs grands rabbinim et tous les élèves rabbins qui suivaient le cursus de formation à l'époque. Ils habitaient les Gobelins, et les Gobelins, ils cherchaient quelque chose qui était desservi du métro en direct. Et à l'époque, il y avait un bus qui reliait les Gobelins jusqu'à Ivry-sur-Seine.
Alors...
Et c'est comme ça qu'il a trouvé ce local, à Ivry-sur-Seine.
Alors justement, en 89, il voit justement à Ivry une grande serrurerie qui ferme. Il te demande de venir la voir. Ça ne te plaît pas tellement, mais enfin, tu dis rien du tout.
Bah, et... Ce n'était pas adapté pour une fabrication alimentaire du tout. C'était une serrurerie, voilà. Mais l'endroit était calme, paisible, au fond d'une cour. Alors, bien sûr, ce n'était pas adapté. Je ne voulais pas lui montrer mon étonnement. Je voulais l'encourager. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, c'est grand, c'est bien. Oui, ok, vas-y, fonce.
Voilà. Et il a foncé. 2 tréteaux et une planche, ça c'est son bureau. 8
oui.
congélateurs pour mettre la marchandise.
Oui.
Et lorsqu'ils sont fermés, ça fait une table de travail. Il
oui,
avait du courage.
Oui, oui, oui.
D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait aucune législation, je pense.
Vraiment pas grand-chose, puisque au départ, quand ils commercialisaient les boutingues, il n'y avait même pas un logo de marque, même pas une date limite d'utilisation optimum, comme on appelle la DLUO. Il n'y avait rien. Ils vendaient la boutingue sans aucun... Alors maintenant...
Ça a changé, c'est sûr.
Ça a changé, tout a été mis aux normes, bien évidemment. Et je raconte dans le livre que si maintenant ils pouvaient imaginer du ciel qu'on nous fait des analyses de l'air dans le laboratoire, le pauvre papa, j'imagine quand il a commencé avec ma maman dans des conditions vraiment très précaires, oui, ça a changé, en effet.
Alors en 1991, tout bascule. Ton père se casse le col du fémur. Immobilité, 6 mois. Alors, tu es obligé de t'engager un petit peu plus.
Oui.
Et puis 6 mois plus tard, c'est ta maman qui décède, le 14 juillet, je crois.
Et tout à fait dans des conditions extrêmement difficiles.
Et là, tu te sens embringué. Et alors en 92...
Et là, j'oublie tout et je dis, je ne peux pas laisser mon père qui était déjà âgé, puisqu'il était né en 1918. J'oublie tout, j'oublie ce que je gagne, j'oublie le métier que je fais et je commence à travailler avec lui et je reprends l'entreprise, donc d'entreprise individuelle établissement Méni, je reprends donc la direction des établissements et de la société Méni. Voilà.
Et dis-moi, en 92, vous avez un contrôle sanitaire. Là, ça devait être la bousculade, là, non ?
Bah, oui, c'est ce qui a poussé la décision. On a eu un contrôle sanitaire. Mon père, il travaillait à l'ancienne dans la serrurerie et il ne se sentait pas le courage et la capacité de demander et d'obtenir l'agrément sanitaire européen pour la fabrication de moutons, parce que il y avait, mis à part des travaux gigantesques à faire, il y avait des normes à respecter, d'analyse, de contrôle, de process de fabrication, de plan HACCP, etc., etc. Et il me dit, Gérard, soit tu reprends, soit on ferme, mais moi je ne peux pas faire ça.
Et voilà. Et tu as choisi la deuxième solution.
Voilà, et l'entreprise Memmi a été le premier fabricant de boutang à être agréé Europe en matière de normes sanitaires et d'agrément sanitaire européen. Voilà.
Eh bien, bravo, ça a dû être du travail, beaucoup de transpiration, mais bon.
Ouais, je détaille un petit peu tout ça, les services vétérinaires qui ne connaissaient pas du tout ce produit, tout était nouveau, et j'ai fait jurisprudence aussi bien avec les services vétérinaires qu'avec les douanes, qu'avec les administrations, voilà, ça a été un long combat. Maintenant c'est facile, on tape boutang ou boutang sur internet, ça défile, mais à l'époque il n'y avait rien, et mis à part les habitants de Marseille ou de Martigues qui connaissaient ça d'une manière traditionnelle, mais personne ne connaissait ce produit en France.
Alors, 96-97, c'est encore un autre tournant, c'est la création du logo Memmi. Et avec la brochure et puis une gamme complète de produits, un packaging comme tu dis, etc. C'est du travail ça.
Bah oui, parce que ma politique c'était de dire à papa, papa, il faut pas travailler qu'uniquement avec notre communauté, il faut élargir, il faut promouvoir ce produit. Donc au fur et à mesure des années, j'ai mis une gamme entière de produits à partir de la moutarde, avec des déclinaisons, avec des poissons fixe, avec un prêt à déguster, avec des finitions différentes, avec cire, sans cire, avec de la cire d'abeille, comme les Grecs le font. Voilà, j'ai décliné, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a mis du temps, petit à petit, mais à chaque fois qu'on a innové, on a eu les résultats de cette innovation, la récompense de cette innovation, et c'est vrai que l'entreprise a été récompensée plusieurs fois. Mais je suis particulièrement humble et je ne veux pas tout dire, mais on a reçu des belles distinctions.
Alors, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rigoler, peut-être que tu pourrais nous en parler, c'est le coup de bluff de Auchan.
Ça, c'était exceptionnel. Alors, j'ai décrit l'histoire dans le livre parce que je l'ai raconté à Flammarion, qui était plié en deux. Je raconte brièvement. Une journaliste du journal du dimanche, avec le supplément Femina Hebdo, enfin un supplément à l'époque, vient m'interviewer concernant ce produit, parce que ça a toujours été un produit qui a suscité l'intérêt et la curiosité des journalistes. Elle vient m'interviewer, et puis à la fin de son article, elle me dit « Bon, il faut que je cite des magasins et des points de vente ». Et puis, moi, naïvement, je lui cite une ou deux épiceries dans Paris, une à Marseille. Elle m'a dit, non, c'est un journal national, il me faut quelque chose de plus gros. Puis je lui dis, je sais que mes produits, par l'intermédiaire d'un distributeur, sont distribués chez Auchan. OK, point final. L'article sort, magnifique article que j'ai encore, sort donc le fameux dimanche, le lundi. J'arrive, je venais de reprendre les rênes de l'entreprise et je fais comme dans les bronzés, je vois si le téléphone est bien raccroché, personne n'appelle, mes gars qui n'ont plus rien à faire, le personnel est vraiment très très angoissé. Et là, c'est ça le coup de génie, je ne sais pas à l'époque, j'étais plus jeune. J'appelle la direction d'Auchan, après quelques aiguillages, je tombe sur l'acheteur produit de la mer au niveau national et je lui dis, monsieur, je crois que j'ai fait une bêtise parce que je vous ai cité en vente dans les magasins Auchan du produit que je fabrique et à l'instant où je vous appelle, il était vers 11h30, je n'ai pas cessé de recevoir des coups de téléphone de consommateurs qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas mon produit à Auchan. Et il m'a dit, vous êtes fou, je vais vous attaquer en justice. Alors, à l'époque, pas de mail, pas d'informatique. Envoyez-moi fax l'article. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Et je lui dis, voilà, la boutade, elle dominait. Il ne connaissait pas du tout. Il me demande des échantillons. Je lui envoie les échantillons. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens, quand ils goûtent pour la première fois, soit ils adorent tout de suite, soit ils n'aiment pas, c'est un produit authentique, donc ça ne laisse pas les gens indifférents par rapport au goût. Et lui, j'ai eu beaucoup de chance, il est tombé addict tout de suite. Il m'a rappelé par la suite, il me dit « Ok, je vais vous laisser votre chance. Vous allez donc essayer de présenter le produit autrement, parce que ça, c'est impossible de le vendre dans la distribution. » Et là, il me donne un grand coup de main. C'est M. Jean-Jacques Lecomte à l'époque, de la centrale d'achat Auchan à Villeneuve-d'Ascq, et il m'aide à mettre en place une gamme en poids fixe. Et il me dit, pour vendre, il faut un poids fixe, il faut faire ci, il faut faire une fenêtre, votre logo, voilà. Et il m'aide à constituer cette gamme. Et il me dit, par la suite, très rapidement après, il m'a dit, je vais vous donner une autre chance, je vais vous faire rentrer par la grande porte et sur le dépliant publicitaire national, Vive le Sud, au champ 1999, il met boutade en gamme obligatoire avec un descriptif. Et à l'époque, sans ordinateur, sans bon de livraison fait à l'ordinateur, sans étiquette. Voilà, j'étais tout seul, je n'avais même pas d'assistante, j'ai appelé mes copains pour m'aider et je me suis tapé 143 factures à la main à l'époque. Ouais. Voilà.
Ouais, mais d'un coup, 146 points de vente à livrer, c'est quelque chose, non?
Exactement, exactement.
Bon, alors
c'était un gros coup de bœuf et j'ai eu beaucoup
bravo,
de chance.
Bravo, bravo. Alors, à partir de là, commencent un peu les exportations. Et la première, c'est au Japon, à Tokyo.
Bah, j'étais cohérent dans ma démarche et dans ce que j'avais dit à mon père qu'il fallait vraiment connaître. Alors, il y a une tradition au Japon et à Taïwan où ils connaissent ce produit. Et donc, j'ai dit, bon, s'ils connaissent le produit, c'est qu'il peut y avoir un potentiel. Et j'ai fait mon salon à Tokyo pour la première fois en 1998. Et ce qui est drôle, c'est que je suis tombé sur des anciens qui voyait le nom et le numéro de stand, Karasumi, France, c'est le nom en japonais, et il rigolait, et il me dit, mais Karasumi, c'est notre produit, c'est comme un Tunisien, il me dit, mais la putain,
exactement.
C'est que nous. Mais ce qui était drôle, c'est que ce monsieur en question m'a raconté exactement les mêmes histoires, la même symbolique que mon père me racontait depuis des lustres de la boutade en Tunisie.
Oui, ça veut dire que les hommes sont tous faits pareil.
Voilà, plus c'est gros, mieux c'est. On offre en cadeau à l'apéritif. Mmh. On donne ça, le médecin en Tunisie donnait ça aux enfants chétifs qui étaient un peu faibles. Allez, donnez-lui une petite tranche de boutade et puis tout ira bien. C'était un peu comme l'huile de foie de morue à l'époque. Mmh. Et au Japon, exactement les mêmes histoires. Mmh. Alors, comment ça a traversé du bassin méditerranéen au Japon et à Taïwan, qui sont les plus gros consommateurs au monde, mais qui ne la fabriquent pas tout à fait de la même façon que nous, comment ça a traversé du bassin méditerranéen? Eh bien, dès que j'écris le tome 2 pour raconter cette histoire, Roland, vous serez prioritaire.
Et puis alors, à partir de là, tu as fait d'autres exportations, d'autres salons et partout dans le monde.
Oui. Moscou, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, beaucoup de salons à l'étranger pour faire connaître le produit. Et aujourd'hui, nous avons des distributeurs un petit peu partout.
Et dis-moi, ta formation d'expert comptable, elle a dû peut-être un petit peu t'aider pour faire ce managing?
Je ne suis pas sûr, parce que j'ai très vite oublié les déclarations de TVA.
Ah ouais.
je ne suis pas sûr. Mais sans aucun doute, ça m'a aidé. Mais tu sais, Roland, j'ai été un garçon extrêmement communautaire. J'ai été secrétaire national du DEJ, j'ai été président de l'OFAC pendant plus de 20 ans, j'ai dirigé des colonies de vacances pendant 25 ans. Je pense que ça, Ça m'a plus aidé
formateur.
Que mes études d'expertise comptable. Et le DEJ de Marseille, je connais parfaitement.
Bon, alors, écoute, Gérard. Là, je voudrais toucher un point très particulier, un point qui t'est vraiment très personnel. Je voudrais que tu nous parles de cette rencontre que tu as faite avec Bruno Coréard. Et puis tu vas le présenter, tu vas dire qui c'est. Et tu vas surtout nous dire quel objectif et quel engagement tu as pris avec lui.
Oui, à la fin du passage qui m'est consacré, j'explique les beaux projets que j'ai à cœur. J'ai rencontré Bruno Coéard, qui est un spécialiste de l'étude des poissons, de la migration, qui est un ingénieur qualité, qui travaille avec l'UNESCO, qui travaille avec la Commission européenne, qui a fait énormément de travaux, de rapports par rapport à ça. Et puis un jour, il vient me voir et il me dit, voilà, on met en place un projet qui concerne la Mauritanie avec une ONG et l'UNESCO. En fait, il faut connaître l'histoire. En Mauritanie, il y a une tribu spécialisée dans la pêche du mulet à l'ancienne, qui s'appelle le Bandarga. Pas d'électricité à ce jour. Hein. Pas d'électricité, pas d'eau potable, mais un endroit merveilleux où toutes les oiseaux qui peuvent exister dans le ciel font leur pause entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et c'est des mers qui sont remplies de richesses et de ressources marines, et c'est les seuls qui sont autorisés à pêcher. Et de tradition, la tribu des Imraguen pêche le mulet à l'ancienne en frappant des bâtons dans la mer en fonction du cycle lunaire et avec l'aide des dauphins qui poussent les bandes de mulets sur la mer. Il y a eu une émission de Thalassa qui a raconté toute son histoire. Et ce monsieur Bruno Correa vient me voir en disant voilà, il y a un projet pour rendre les femmes des Imraguen, des pêcheurs Imraguen, pour les rendre indépendantes financièrement, pour les occuper. Il y a la présidente de l'association de ces femmes qui regroupe plus de 700 personnes, et je parle d'un très beau projet où, avec mon aide et avec mon savoir-faire et avec ma transmission, elles veulent fabriquer la boutade avec, bien sûr, une approche marketing complètement différente de la gamme Mémi. Elles veulent fabriquer la boutade dans l'espoir de les rendre complètement indépendantes financièrement. Et puis, c'était un programme aussi qui rentrait dans le cadre de l'UNESCO et de la Commission européenne, voilà, qui était aussi aidé. Donc, il est venu me voir et m'a dit, vous êtes le spécialiste, aidez ces femmes à valoriser le produit, le savoir-faire, pour qu'elle s'occupe, pour qu'elle soit indépendante financièrement. Et j'ai exigé que je suis prêt à donner tout mon savoir-faire. Et la seule condition, c'est que Mémi distribue ce produit dans toute l'Europe, fabriqué par les femmes Imraguen, avec un label différent, avec une marque différente, et puis surtout avec un texte qui explique le projet. Et je suis rentré de Mauritanie pour ce projet il y a environ 15 jours. Je me suis baigné dans le Bandarga. Écoute, Roland, c'est un endroit, comment te dire,
alors moi, je dirais surtout que c'est un engagement profond de la société Mémi en faveur d'un développement durable et juste pour tous. Et ça, c'est magnifique.
Ça, c'est un magnifique. Beau projet. Oui. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais communautaire. Je savais donner. Et quand tu donnes, tu reçois. Et je trouve que sans chercher à comprendre si la société va gagner des sous ou pas, mais je trouve que c'est un très beau projet. En Mauritanie, j'ai été super bien accueilli. Tout le monde savait auquel communauté j'appartenais. Écoute, d'une gentillesse, d'une beauté de paysage. J'ai des photos extraordinaires du Bandarga. Et je peux te dire que c'est vrai. C'est un projet qui m'a tout de suite emballé.
Je vais te citer encore. Ma plus grande reconnaissance va par ailleurs à ma mère, qui a toujours insisté pour que je prenne la suite de l'affaire malgré mon peu d'enthousiasme dès des débuts. Ma grande fierté et d'imaginer la satisfaction de mon père en constatant de là où il se trouve le chemin parcouru depuis toutes ces années. Alors moi je dis bravo Gérard.
Roland, tu vas me faire pleurer. Alors, que, quand mon père avait commencé, il avait trois clients, un juif, un arabe et un italien. Voilà.
Bon, alors, je lis encore. La boutique symbolise la jonction entre le présent et le passé. La boutargue symbolise la jonction entre le présent et le passé, le fragile équilibre du labeur des pêcheurs et du cycle des saisons, le subtil dosage entre l'eau qui donne la vie et le sel qui conserve. C'est à cette ère du large que l'iode de la boutargue ou poutargue nous invite. Voilà, j'ai voulu lire ça parce que j'ai voulu expliquer à nos auditeurs toute cette poésie qu'on trouve dans ton livre. Et ça, c'est absolument très, très beau.
Alors, la boutargue n'est pas simplement un produit alimentaire.
Voilà, exactement.
C'est partie de notre culture.
Alors, on a appris, enfin, il nous reste maintenant une douzaine de minutes, on a appris ce qu'est la boutargue, comment on la pêche, comment on la produit. Alors, en fin de ton livre, on passe à des choses plus, je dirais, de bon goût. Ça réveille les sens, voilà. Et là, donc, alors, je veux dire là que tu donnes 35 recettes de grands chefs.
Alors, il y a 20 recettes qui ont été établies par M. Benoît Nicolas, meilleur ouvrier de France, et qui est formateur dans l'une des écoles de cuisine les plus importantes au monde, de l'école Ferrandi. Des recettes simples, pas compliquées. Et puis, il y a une quinzaine de recettes faites, comme tu l'as dit, par des grands chefs, et vraiment des grands. Voilà. Parfois un peu plus sophistiquées, plus compliquées que les recettes de M. Benoît Nicolas, mais en tout, oui, une 32 recettes bien expliquées, détaillées, avec photos, et des recettes simples, abordables.
Alors, tu parles aussi de dégustation avec de la boisson. Quel genre de boisson ?
Alors, il y a eu deux intervenants. Il y a eu d'abord Cyril Malde, un spécialiste de spiritueux qui a écrit 5 ou 6 pages auxquelles j'ai demandé sa contribution, où il parle des meilleurs. Alors, lui, c'est un fou de Boutargue. Hein. Je n'ai pris que des gens dingos de Boutargue, des addicts. Cyril Malde ne fait pas partie de notre communauté. Il a découvert ce produit et c'est un expert en spiritueux qui a participé comme membre de jury, qui a vraiment une expérience dans les spiritueux très importante et qui a écrit dans énormément de revues spécialisées, qui fait partie de jury. Enfin, c'est une référence. Et lui, il a écrit 5 ou 6 pages avec les meilleurs accords de boutargue et d'alcool. Alors, bien sûr, il parle de la bourra.
Évidemment.
Une belle photo de bourra et de boutargue. Je ne voulais pas avoir un procès vis-à-vis de la communauté, hein, tu comprends bien, hein, et surtout tunisienne. Mais par ailleurs, il parle aussi de boissons auxquelles on ne peut pas s'imaginer, et en effet, qui vont très bien, comme la tequila, le rhum, certains whisky. Voilà, il a décliné vodka, quelques vins. Sauf le vin rouge. C'est une catastrophe de mélanger les deux.
Bon.
Voilà. Et puis le deuxième spécialiste, il y a un paragraphe boutargue et nutrition et santé qui a été fait par le docteur Catherine Lacronière, qui est une grande spécialiste qu'on voit très souvent à la télé. Elle connaît bien. Ses enfants sont fous de boutargue, sont addicts. Et là, elle a fait tout un paragraphe de boutargue et santé. Mmh. Tout est bon. Alors, le sel, sauf le sel pour les hypertensions. Mais elle a fait un rapport avec 100 grammes. Pour manger 100 grammes de boutargue, il faut être costaud quand même. Hein, parce qu'on
ah oui, c'est beaucoup.
Tranches,
hein. Surtout ouais. Que ça se fait par petites tranches très très fines.
Exactement. Mmh. Exactement.
Alors dis-moi, entre toi et moi, la boutargue, dans les pays arabes, on appelle ça comment ?
Adabrous.
Voilà, c'est comme ça qu'on disait à Alger en tout cas. Voilà.
Oui.
Alors, il faut quand même nous dire, il faut le dire parce qu'il nous reste très peu de temps, il faut dire que du 24 au 29 janvier, donc très très prochainement.
Alors, être... le 24, ça commence le dimanche 26 au 28.
D'accord.
Voilà, nous faisons un très grand salon à Marseille spécialisé pour les professionnels qui s'appelle Food in Sud.
Oui.
Et le samedi 25 janvier, Motsé Shabbat, à partir de Motsé Shabbat, nous faisons une dédicace, une dégustation, une présentation, un moment convivial dans une épicerie qui vend également des livres, auxquels j'aurai le plaisir de dédicacer des livres pour ceux qui viennent, qui s'appelle l'Épicerie Idéale, 11 rue d'Aubagne, à Marseille, dans le premier arrondissement de Marseille.
Donc là, ça, c'est le 25 janvier, c'est ça?
Ça, c'est le samedi 25 janvier, juste après Shabbat.
Bon, d'accord. Alors, on n'a pas dit...
Et là, dégustation totale, offerte. Ça, c'est mon kiff. Celui qui veut venir que pour la dégustation et ne pas acheter de livre, il est welcome quand même. Hein.
D'accord.
Par au Shabbat.
Bon. Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup.
Merci
on
à
a
toi,
appris
Roland.
Beaucoup de choses et puis on se verra bientôt.
Merci à toi, Roland.
Au revoir.
Je te souhaite que des bonnes choses.
Merci.
À bientôt.
Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce que nous a raconté notre ami Gérard Mémy. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir.